I got blue and chole pour I to the pie party.
L'écho du parquet, l'émission qui met le feu au plancher.
À la vacante, j'ai dit de pas m'engarer, pas m'engarer.
Votre rendez-vous radiophonique des musiques et danses traditionnelles.
La petite son chapeau, une belle plume de haut.
Pas m'engarer, pas m'engarer.
Mais si l'amour prend la racine dans mon jardin, j'en planterai. Dans mon jardin, j'en planterai, mais aux quatre coins. J'en ferai pas, aurons-nous deux qui en auront besoin.
Elle est pas mal.
Et bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans l'écho du parquet, votre rendez-vous bimensuel sur les musiques et danses traditionnelles. Et c'est notre deuxième émission de la saison, qui est
et
aussi
la
22e.
Ouais.
Voilà. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, vous pourrez nous écouter comme d'habitude sur Fréquence 7, sur Radio Méga et sur Radio Saint-Ferréol, ou alors au fond de votre lit sur notre audioblog Arte Radio.
Notez qu'il est autorisé d'écouter Radio Saint-Ferréol, Radio Méga et Fréquence 7 depuis le fond du lit aussi, si vous y tenez
vrai.
Vraiment.
C'est vrai, à condition d'être dans l'aire géographique adéquate. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, on va vous faire écouter... un certain nombre de morceaux, quelques nouveautés, et surtout on va passer une bonne partie de l'émission, à peu près la moitié de l'émission, un peu plus, en compagnie du groupe breton Fleuve, qui nous fait un peu de l'électro-trad, voilà.
Mais avant ça, on s'écoute une... Alors une nouveauté, tu disais ?
Oui, alors c'est une sortie récente du côté de l'AEPEM, qui est l'Association d'études de promotion et d'enseignement des musiques traditionnelles, et dont le rôle principal est de proposer par le biais de nouveaux enregistrements des trésors, disent-ils, à juste titre, sans doute sur leur site, recueillis par des collecteurs, des folkloristes et autres ethnomusicologues. Alors parmi les disques récemment sortis du côté de l'AEPM, qu'ils ont coproduit, vous avez par exemple pu entendre sur, dans notre émission l'album du duo Décime, ou la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, l'album de Trancanaou, je sais pas comment ça se prononce, j'ai toujours pas su depuis deux semaines. En fait, j'aimerais bien qu'on me dise, et je sais pas pourquoi, c'est toujours moi sur qui tombent les morceaux des groupes difficiles à prononcer, comme celui de cette semaine.
Qui est?
Eh ben alors, il s'agit du groupe Ati Mekar. Voilà, moi je dirais comme ça, mais on a envie de prononcer à l'anglais, c'est dire Ati Mekar, mais je pense que c'est vraiment pas ça l'esprit du truc.
Et qui signifie,
je ne sais absolument pas, mais leur album s'intitule « Sur le vif ».
Ah, ça, c'est facile.
Ça, c'est plus facile, ouais, c'est dans mes cordes encore. Qui propose un répertoire de musique traditionnelle d'Auvergne, du Rouergue et du Limousin, et qui a été enregistré en Bâle en mai dernier. Et donc, comme avec d'autres productions de l'AEPM, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, le livret propose pour chaque titre une présentation qui indique les sources, l'histoire du morceau, avec une série de jolies photos anciennes de différents interprètes des morceaux. Interprètes anciens, les interprètes actuels sur ce disque donc, de Ati Mekar, c'est Guillaume Bouteloup à la Vielle à Roue, Cédric Bachellery à la Cabrette et Thomas Restoin à l'accordéon chromatique. Voilà un trio. Et nous, on va vous proposer une suite de deux bourrées qui se trouvent sur leur album, qui s'appelle « La cornadelle et les forgerons aiment le vin ». Voilà, Ati Mekar. Et c'est parti pour deux bourrées. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Thank you.
Et rentrons directement dans le vif du sujet, avec le sujet central de cette émission, qui est aujourd'hui consacré au groupe Fleuve, qui propose une musique de fechnose résolument moderne, influencée par d'autres ambiances musicales telles que l'électro, et puis vous verrez vaguement de loin un peu de jazz rock dedans. Et pourquoi Fleuve aujourd'hui ? Parce qu'ils viennent tout juste de sortir leur troisième album.
Et aussi parce qu'on les a rencontrés.
Oui, du coup. Mais on les a rencontrés dans le but du troisième album. Un troisième album très sobrement intitulé 3, voilà, pour lequel ils font ces jours-ci des concerts rapprochés de Release Party, des concerts spéciaux pour la sortie de l'album. Je ne sais pas s'ils le jouent en intégralité, c'est probable. Qu'ils ont fait, ils ont commencé à Brest et puis ils en font 3 de suite comme ça, et notamment au Technibal d'Aubervilliers qui va commencer, ils pourront jouer là. Alors on n'a pas encore reçu le disque, mais on va vous proposer des titres qui sont parus ces derniers mois en single, voilà, et ces titres vont accompagner une interview qu'on a donc pu faire avec tout le E3 cet été au Son Continu, où on a fait une interview en tentant de trouver un endroit calme quelque part, ce qui est à peu près impossible dans un lieu où un peu tout le monde joue un peu partout de la musique un peu tout le temps, même le soir, quand on a fait l'interview avant qu'ils montent sur scène et qu'on entendait les balances des autres groupes. Mais bon, on a fini par s'y retrouver et on vous propose donc maintenant une petite demi-heure en compagnie de Fleuve.
Alors bonjour, Emilien Robic, clarinettiste dans le groupe Fleuve. Et mon parcours, j'ai été sonneur de biniou, sonneur en couple pendant pas mal d'années. Et du coup, donc parce qu'il y a une pratique de la clarinette traditionnelle en Bretagne qu'on appelle la Trojan-Gaul, tronchou, si on fait une traduction française, on va dire. Et voilà, donc j'ai pratiqué, et je pratique toujours cet instrument, voilà, même si maintenant, au sein du groupe Fleuve, la clarinette prend une autre dimension, une autre ampleur, peut-être un peu moins traditionnelle, même si elle garde toujours ses accents. Et voilà, mais je vais chercher des trucs un petit peu ailleurs, et puis j'apprends aussi la clarinette basse tout en continuant le groupe Fleuve et en l'intégrant dans le groupe Fleuve.
Bonjour, et du coup Samson Dayou, bassiste au sein de Fleuve. Moi j'ai commencé par faire de la guitare en fait quand j'étais enfant, et je suis issu d'une famille de sonneurs, Bignou Bombard, voilà, mon père, mon oncle. Donc baigné dans les musiques traditionnelles depuis la naissance finalement. Et puis voilà, de fil en aiguille, à partir de la guitare, je passais sur la basse. Et puis après avoir écumé pas mal de styles, on va dire, essentiellement rock, jazz rock, musique des Balkans, du reggae, de la pop, enfin pas mal de choses. On en est arrivé, voilà, à se rencontrer avec le cousin Emilien Robic et puis Romain Dubois au clavier, avec qui on s'est rencontré quand on était étudiant à la fac, avec qui on faisait du jazz rock en fait.
Moi c'est Romain Dubois, je suis claviériste de Fleuve. Il se trouve que moi j'ai une formation plutôt jazz à la base. Jazz et musique assez de danse, c'est-à-dire j'ai beaucoup appris par la bossa nova, du tango et tout ça. Et notamment, alors en parallèle de Fleuve, moi je compose pas mal pour de la danse contemporaine et pour du spectacle, de cirque et ainsi de suite. Et ce qui m'intéresse, c'est la question de la musique et du corps en manière générale. Et du coup, c'est avec Fleuve, ça fait partie d'une partie de mon boulot, qui est de chercher les liens entre le corps et la musique. Et notamment, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en Bretagne, il y a une vraie culture de la danse et du corps, qui est, je trouve, sous-estimé. Et voilà, et ça fait partie des axes de recherche, un peu de fleuve aussi, c'est-à-dire à partir de cette culture de danse, à la base qui est vue comme traditionnelle, mais en fait qui est très actuelle. Mais comment on en fait aussi tout un terreau de création voilà, pour aujourd'hui et pour plus tard, quoi. Et c'est passionnant, et du coup, moi, ça rejoint toute ma culture, voilà, qui est plus... c'est pas du tout la culture bretonne voilà, de traditionnelle. Je l'ai appris sur le tas en allant en fest-noz avec les copains et en apprenant et en jouant et en voyant les gens danser. Voilà, c'est du. Pour ma part, c'est j'ai appris en faisant, quoi. Enfin, sur le tas et avec fleuve. Voilà. Moi, je suis pas danseur. J'ai passé beaucoup de temps à regarder la danse. Et puis moi, je cherche les liens aussi avec la danse contemporaine. Enfin, j'ai un rapport assez esthétique à la danse bretonne aussi. De me dire, je trouve ça beau. Et c'est une des questions de fleuve, c'est comment on montre que tout ça est beau. Et comment on montre la beauté des gens qui dansent. Et souvent c'est réservé à des gens, à des danseurs contemporains par exemple. Et il se trouve qu'en Bretagne, on a la chance que ça puisse être un peu n'importe qui devienne beau par la danse, quoi. Et ça c'est une grande... Je pense que c'est ce qu'on se dit avec fleuve, c'est qu'il y a une vraie beauté là-dedans qu'il faut montrer, quoi.
Puisque tu parles de ça, tu dis on veut montrer la danse en tant qu'elle est belle, mais pour autant vous faites un spectacle de musique et essentiellement de musique, et les gens qui dansent c'est des gens devant vous parce que c'est en fest-noz, mais vous pourriez décider de faire un spectacle avec de la danse contemporaine sur scène par exemple. Pourquoi pas ça si le but c'est montrer la danse?
Parce que l'idée c'est de magnifier la danse populaire. C'est justement quelque chose qui est souvent mis au second plan. Et là, c'est un cadre où les musiciens sont justement pas acteurs principaux de la soirée. Si on joue en concert classique, on va dire, sans danseurs, on perd plus de 50% de l'énergie de ce qu'on cherche à développer, finalement.
Vous le faites parfois ? Jamais ?
Si, ça nous arrive de jouer, là par exemple demain on va jouer à Arles, au sud, qui est un festival qui n'est pas du tout axé sur, pas particulièrement un rendez-vous de danseurs issus du folk ou du fest-noz. Mais voilà, ça, le défi aussi de l'histoire, ça reste que la musique puisse aussi être néanmoins juste écoutable avec plaisir, même si le but premier c'est de faire danser les gens évidemment.
La plus belle formule, moi je trouve, hein, mais de mon côté, c'est quand nous on joue, il y a des danseurs, il y a une vraie ambiance et il y a des gens qui ne connaissent pas et qui regardent les gens qui dansent. Et du coup, ça croise plusieurs regards des choses. Autant le côté, il y a les danseurs qui participent, ainsi de suite, et puis il y a les gens qui regardent le spectacle des gens qui dansent. Et ça nous est arrivé pas mal de fois. C'est vraiment beau parce qu'on voit les gens qui regardent les autres gens danser, qui trouvent ça super et qui trouvent ça cool. Et du coup, il y a tout un truc qui est de l'ordre presque du spectacle aussi, mais en même temps, où les gens sont actifs aussi. Enfin bref. Et voilà, il y a une sorte
de spectacle.
Il y a une forme qui n'existe pas ailleurs, qui est propre à la danse populaire.
« Non, il n'y avait pas un autre projet derrière. Non, c'était vraiment l'idée de faire danser avec par contre nos instruments à nous qui effectivement n'étaient pas les plus classiques de ce qui se passait dans le milieu fez-noz ou folk même. Effectivement, clavier Fender Rhodes, basse et puis clarinette basse, c'est pas vraiment ce qu'on retrouvait principalement sur les scènes de Bretagne ou d'ailleurs, quoi. Donc on était différents des autres de par ça. Et puis de par notre façon de concevoir la chose, quoi, de concevoir l'écriture de notre musique, quoi. Voilà. Tiens, des bombardes. Ça nous rappelle le pays. Voilà, ouais, c'est ça qui faisait un peu la différence dès le début. Et puis sur notre façon de concevoir l'écriture de la musique, où on avait envie de faire les choses un peu différemment, c'est-à-dire de pas réfléchir la musique comme une succession de thèmes traditionnels ou même composés, mais de thèmes de danse, mais plutôt de laisser de la place à d'autres sortes de nuances et de la place pour les gens, de la place pour l'écoute, et puis voilà, trouver un chemin différent.
Ouais, c'est-à-dire que nous, on s'est amusé dans Fleuve à faire tourner aussi le rôle de sonneur. C'est-à-dire que les prises de parole au niveau du thème sont aussi bien jouées par la clarinette que par le Fender Rhodes, que par la basse, justement. Donc c'est une utilisation qui a déjà été faite, je veux dire, c'est pas révolutionnaire, mais ça peut être atypique pour ce type d'instrument. Et ce qui est intéressant justement, c'est de pouvoir repasser après dans un registre classique, on va dire plus rock ou dub. Tu parlais de trance, ça peut aussi rentrer là-dedans. Ouais. Mais il y a eu, y a des grosses références quand même en termes d'utilisation du thème à la basse, comme Alain Gentil, des gens comme ça, qui ont laissé un peu leur empreinte sur l'instrument dans les musiques traditionnelles. Ouais.
Et alors, en ce qui concerne le Fender Rhodes, qui n'est pas le clavier le plus connu en général, est-ce que tu peux présenter un peu cet instrument qui, pour moi, est très marqué par le jazz rock des années 70 et il me semble que c'est le son typique de ça.
Alors oui, tu as tout à fait raison, c'est un typique instrument des années 70. En gros, c'est l'équivalent de la guitare électrique au niveau du piano, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des tiges de métal qui sont frappées avec un marteau et qui sont amplifiés par un micro, des bobines, comme une guitare électrique, en gros. Moi, je joue toujours sur des instruments électriques ou électromécaniques par rapport à l'instrument où j'ai envie de quelque chose de vivant. Il se trouve que je l'ai en partie réglé d'une certaine manière pour rejoindre en fait la clarinette. Le propre des instruments en général acoustiques populaires, c'est aussi de jouer sur la saturation en termes de niveau sonore, vu que c'était des instruments où il n'y avait pas d'amplification électrique. Et ce qui a fait qu'il y a eu des jeux particuliers qui sont développés, notamment la Trojan Gaul, qui est de faire saturer son instrument pour qu'il sonne fort, mais du coup il y a tout un son. Il se trouve que sur le Rhodes notamment, moi j'ai cherché aussi à pouvoir saturer les bobines, les fameuses bobines, pour retrouver aussi quelque chose d'un peu possiblement, ou si je veux mordre l'instrument, il va crier aussi un peu, quoi, voilà. Et puis ça s'est fait dans le jeu aussi, en apprenant et puis en testant. Quelque chose qui est très aussi propre à la danse bretonne, qui est une danse physique, de groupe. Souvent, moi, je parle de rugby, un peu, si tu veux. Il y a quelque chose qui est assez massif et qui joue aussi là-dessus. Et Et la question du gros son, comme tu dis, c'est pas forcément qu'il faut que ce soit fort, parce que c'est pas l'idée d'écraser les gens, mais c'est qu'il y a un appel, à la terre, au corps, au poids, voilà, qui est propre à la culture bretonne. Alors ça fait partie des questions, notamment en balfolk. Nous, on voit les différences de danse, qui est beaucoup plus légère en balfolk, beaucoup plus libre aussi. Là où les bretons vont être beaucoup plus... Mais ça s'entend clairement sur la danse, c'est-à-dire que entendre les danseurs, le parquet et les danseurs, c'est devenu un élément musical. Et les bretons le savent. Et voilà, et il y a tout un jeu aussi en termes de puissance de la danse qui est... où il y a une exigence où tout le monde doit être sur le même mouvement, et c'est ça, cette puissance-là qui fait que ça va avoir une beauté une fois qu'on est tous là-dessus. Et on voit la différence avec le balfolk où c'est pas pareil. Voilà, bon, il faut tout, hein, mais nous on a... Et je pense que la question du gros son, comme tu dis, en Bretagne, c'est ici aussi de la danse qui demande aussi quelque chose d'assez inscrit dans la terre, tu vois.
Et de la transe, du coup, parce que la différence aussi peut-être avec la danse dans le balfolk, je sais pas. Enfin, en tout cas, en Bretagne, les danses chez nous sont des danses collectives, où en fait c'est le collectif qui doit trouver le moyen de toujours faire avancer la danse et ce qui se passe avec les chanteurs, avec les sonneurs, et que du coup cette histoire de saturation, d'aller à un moment donné passer un cap, d'aller toujours un peu plus fort, de se pousser les uns les autres, ça amène directement effectivement sur le chemin de jouer plus fort avec du gros son, parce que effectivement l'instrumentarium contemporain fait que au lieu de chanter plus fort et de faire brailler la voix, on a d'autres possibilités. Mais effectivement, c'est toujours dans l'idée de grossir le son et la transe, quoi.
Puis il y a quand même une... Depuis des années, je veux dire, un développement du gros son, comme tu dis, en Bretagne. Il y a des groupes comme Aria Wank qui sont passés par là. Il y a des groupes comme Gwers, Den, qui avaient déjà apporté des batteries, des synthés, des basses électriques. Et peut-être qu'on s'inscrit un peu là-dedans aussi, oui, c'est sûr.
C'était aussi une manière de se démarquer un petit peu en étant bien ancré dans le milieu breton, mais on a choisi de ne pas avoir un nom spécifiquement breton pour aussi montrer notre ouverture encore différente, et puis c'était l'idée de ramener de la poésie, enfin de quelque chose qui puisse évoquer des choses dans l'esprit des gens un peu partout, et que ce soit pas une barrière, mais plutôt mettez-y ce que vous voulez, quoi.
Il y a l'idée du mouvement dans le fleuve, il y a l'idée du flux qui nous ramène au mouvement des danseurs, justement. Ça a fait partie de notre réflexion.
Il n'y a pas toujours une inspiration traditionnelle, mais après, il y a eu des morceaux, peut-être plus sur le premier répertoire de Fleuve, où pour vraiment trouver l'équilibre du groupe, on était parti plus sur des morceaux traditionnels, enfin qui pouvait après bifurquer un petit peu, mais voilà. Mais maintenant, on est assez aguerri de la couleur du groupe et de tout ça pour faire quasiment que des compos et de pas non plus perdre. Enfin, on perd pas le chemin de la danse pour autant. Enfin.
Et est-ce que, bah, du coup, ça rejoint cette question sur les sources, mais est-ce que vous continuez d'écouter beaucoup de musique bretonne, d'écouter des collectages, enfin, pour se nourrir de ça, ou finalement, vous vous nourrissez de totalement autre chose, mais en continuant à composer de la musique bretonne ?
Enfin, moi, perso, je ne me nourris pas forcément de collectage et tout ça. Enfin, il y a eu un travail en Bretagne assez énorme de fait par beaucoup de gens qui ont fait un travail incroyable et qui nous l'ont mis sur un plateau. Donc, c'est nous, enfin, c'est pas très dur de retrouver tout ça pour nous. Donc, moi, je suis baigné dedans depuis que je suis petit. Donc, moi, j'ai plutôt à l'écouter autre chose maintenant. C'est peut-être le chemin inverse que ferait Romain, je sais pas, mais.
Moi, je suis très axé sur la danse, donc par exemple, ça va être de composer sur de la danse, comme on peut trouver aussi d'autres formes musicales qui vont fonctionner avec les danseurs. Et pour ma part, notamment, quand je cherche à composer, ça va être sur des vidéos. Je prends des vidéos de concours, par exemple, et puis et j'essaye d'inventer ou de composer sur la vidéo à partir de rien quoi. Et donc c'est encore une démarche autre et depuis le début en fait on est dans cette idée là de c'est bien d'aller chercher les sources, c'est bien de savoir de quoi on parle et en même temps faut pas s'y enfermer non plus et voilà, et comment on navigue entre des références qu'on a en tête, le côté social vivant de la chose, c'est-à-dire avec les danseurs, et en même temps d'aller essayer d'inventer des choses qui n'existent pas, quoi. Et ça, on essaye de circuler un peu dans tout ça sans se figer dans quelque chose, quoi.
Que j'aime beaucoup ça, mais je suis pas capable de jouer du jazz. Alors par contre là, je pense que c'est peut-être que ça transpire au niveau des influences jazz rock. Plus, en référence, je sais pas, on a des choses comme Magma, Weather Report, des choses comme ça, King Crimson, qui vont, voilà, qui pareil, qui font partie de notre ADN, mais. On cherche pas, c'est plutôt inconscient cette histoire, mais ça fait partie de nos références. Ouais.
Souvent quand on parle du jazz, on le voit comme des Français, mais il se trouve que le jazz c'est une musique populaire et de danse à la base. Et en fait c'est cette question-là qu'il y a derrière et qui... ou qu'on peut retrouver, voilà, comme je te disais, dans le tango, voilà, en fait c'est une musique de danse. Et si on se retrouve là-dedans aussi, c'est une forme de, je pense que c'est lié à cet aspect rythmique des choses, plus qu'harmonique ou mélodique. Nous, enfin moi et Samson surtout, on est allé en s'intéressant au jazz rock, c'est aussi, justement, tu parles de Magma ou de Weather Report, c'est aussi comment on va essayer de chercher des pulses particulières, des mouvements particuliers. Et derrière, il y a toujours une question du corps derrière tout ça. Et, voilà, et ça fait partie. Et qu'on retrouve dans la musique, en partie électronique, une musique de danse aussi. Et en fait, nous on voit le lien dans tout ça, et la question... du côté progressif, répétitif, et de comment... C'est des outils pour rentrer dans un état particulier, et notamment ce qu'on pourrait appeler de transe. Voilà. Et on voit le lien avec la musique bretonne. Encore une fois, nous, on est vraiment axé sur la danse, et je pense qu'on n'est pas dans le côté instrumentiste, performeur, tu vois. Donc on est dans une logique quand même d'efficacité, toujours, globalement, où il faut que ça réponde derrière. On pourrait même être assez méfiant du côté très bon musicien et puis qui se perd en fait ou qui coupe le lien avec les gens quoi. On préfère souvent être dans un truc assez efficace et tout en mettant des couleurs. Le truc c'est de trouver les belles couleurs qui fassent respirer les choses et voilà. Mais après on n'est pas forcément des hyper bons musiciens si tu veux ou des solistes ou... Non mais tu vois on est pas dans cette culture là du soliste ou de on n'est pas fétichiste de l'improvisation ou tout ça.
Sortez beaucoup de la Bretagne et vous allez jouer dans d'autres types d'univers que le Fest-Noz ou pas ?
Eh ben pas énormément, mais quand on le fait, à chaque fois, on remarque qu'il se passe quand même des choses toujours intéressantes avec le public. On a été à Rome il n'y a pas très longtemps, on a été en Écosse, demain on sera au Festival des Suds à Arles. Enfin, on ne va pas se retrouver tout le temps devant un public de danseurs bretons, mais en tous les cas, notre musique est toujours bien accueillie et souvent bien comprise en termes de mouvement et de danse par le public où qu'on aille. Et du coup, mais enfin, on réfléchit aussi comme ça. C'est quand même ce qu'on souhaite à travers notre écriture et le fait de faire des albums. C'est aussi que cette musique s'écoute et se vive autrement ailleurs, quoi. Enfin, en tout cas, c'est l'espoir qu'on peut avoir. Donc, non, quand on va un petit peu plus loin, à l'étranger ou même en France, dans un public pas forcément Fest-Noz, c'est plutôt cool et ça se passe bien. Après, c'est sûr que le moment où il peut avoir des trucs extraordinaires, souvent c'est en Bretagne, quand il y a 1000 personnes qui sont en fusion avec ce qui se passe. Et pour avoir vadrouillé un petit peu à droite à gauche, on est toujours... assez enthousiaste de revivre ça, quoi.
C'est le troisième album qui sort là, le 4 octobre prochain. Il y a le premier single qui est sorti là au mois de juin, deuxième single au mois de septembre, et puis voilà, le troisième album qui est le fruit de quelques années de travail finalement, parce que ça fait quelques années qu'on n'a pas sorti quoi que ce soit. Et voilà, le 4 octobre, troisième album.
Comment tu décrirais cet album par rapport aux deux autres, enfin, ou quelle évolution du groupe il montre ?
Pour moi, c'est une synthèse de tout ce qu'on a fait depuis le début, en réussissant peut-être à approfondir davantage. On n'a jamais autant travaillé, je crois, un album avant celui-là. Il y a eu beaucoup de travail de pré-production, et je crois qu'on en est assez content. Ça va être un bel album.
Ce qui est intéressant, je pense, ce qu'on voit en ce moment, c'est de voir que ça répond, bah, le fait qu'on soit là, par exemple, ce soir. Mais tu demandais pourquoi on joue pas plus ou au dehors, mais en fait, c'est parce qu'on nous appelle aussi maintenant un peu plus ailleurs. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe maintenant. On jouait à la Philharmonie de Paris il n'y a pas longtemps. C'est qu'il y a cette question-là des cultures locales, populaires. On voit qu'il y a plein de choses qui bougent et le regard n'est plus... On sent que c'est le regard de maintenant n'est pas tout à fait le même que celui quand on a commencé. Peut-être qu'il y a le Covid qui est passé par là aussi, qui a questionné le rapport aux gens par rapport à, voilà, au collectif, le fait de vouloir se retrouver ensemble. L'actualité politique aussi, on voit que ça questionne pas mal de monde et que le fait de voir tout le monde danser ensemble, sans se poser de questions, en fait, ça rend les gens heureux aussi. Bref, voilà, ça rejoint aussi plein de questions sociales qui nous dépassent, nous, mais qui sont passionnantes, en fait, parce que c'est des questions voilà, que tout le monde se pose aussi. Quel est le lien avec l'autre, quoi. Voilà. Comment on fait le lien avec l'histoire, l'endroit où tu vis, l'endroit dans lequel tu te projettes, les gens avec qui tu vis et avec qui tu te projettes, quoi. Voilà. Et c'est moi, en tout cas, personnellement, je trouve qu'il y a une belle je trouve un refuge dans la période actuelle qui est pas si simple, c'est un refuge assez salvateur de voir tout le monde danser ensemble aussi, quoi. Voilà.
Et c'était donc Fleuve avec un morceau qui s'appelle
Haber, une marche.
Voilà, qui était très très beau. Hein. Alors maintenant, comme l'écho du parquet est une émission savante, on va maintenant avec le groupe Rhizotome se plonger dans la malherbologie. La malherbologie qu'on
c'est
nous propose.
C'est l'étude de Malherbe, qui était un auteur du XVIIe siècle, non ?
Ah tiens, j'avais pas pensé à celle-là.
Non, Malesherbes, je crois, c'est plutôt.
Bon, mais intéressant. Non, en fait, c'est pas non plus une étude du compositeur Gustav Mahler. Enfin, bon, qui sait hein, mais... On laisse aux musicologues avertis la reconnaissance des citations de Mahler dans l'œuvre de Rhizotome.
Quelque chose, Mahler est bon.
Voilà, je sens qu'il y en a un qui va me pourrir ma chronique.
Pardon, continue, excuse-moi.
Non, non, super. En fait, non, bon, vous aurez compris que malherbologie, c'est ni malheur ni malsherbe, c'est plutôt pour évoquer l'herbe. Preuve en est le personnage tout de plantes vêtues et arborant faux arrosoirs et râteaux qui est représenté sur la pochette du disque. Et puis le guide botanique imaginaire où chaque morceau serait une plante. Une plante hybride, chimère, complètement fantaisiste, décrite et aussi superbement représentée en dessin, dans le livret donc. Alors s'il est aussi important de décrire l'élégance onirique du graphisme et des textes, c'est parce que, en fait, il en est de même de cette musique de Rhizotome, qui est elle aussi joueuse, hybride, voyageuse comme ce livret. Une musique à danser qui s'affranchit des contraintes, qui propose une chapeloise mazurka, qui se demande comment peut-on danser cela, et qui assume effrontément une adorable mazurka légèrement asymétrique, juste pour faire en sorte que les danseurs nous haïssent, comme ils le disent si joliment. Donc vous l'aurez compris, ça jazz fort. Il y a aussi des couleurs variées des voyages au Japon. Le Japon qui est un pays qui influence beaucoup le duo puisqu'ils y ont enregistré un autre album et ont même une version quartet franco-japonaise de Rhizotome. Alors à cet ailleurs s'en mêle un autre, il y a aussi les influences nordiques de leur pérégrination dans les pays baltes. Sinon, on notera que le saxophoniste a écrit un mémoire sur Meshuga, un groupe de métal qui fait de la musique comme on fait des maths.
C'est vrai. Il faut avoir un bac plus 5 en maths pour écouter Meshuga.
Mais alors, à mon propre sens, pas de traces de Meshuga dans Rhizotome. Est-ce qu'on peut avoir l'avis du spécialiste?
Alors, moi, nous, on a vu Rhizotome la semaine dernière dans un superbe concert sandwich au théâtre de Privas, voilà. Et j'ai trouvé ça nettement moins chiant que Meshuga, qui est comme une influence majeure sur plein de gens que j'aime beaucoup, mais moi, j'arrive pas à écouter, c'est trop chiant.
Bon, bah, tu en reparleras avec Mathieu Metzger, donc. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est quand même, concrètement, ça donne quoi? Vous entendez un accordéon diatonique joué par Armel Doucet et le saxophone sopranino de Mathieu Metzger, donc, qui parfois le délaisse au profit d'une talkbox faite maison, comme dans le morceau qu'on va écouter. Le rhizotome, autrement dit coupeur de racines, qui est un mot ancien d'herboristerie, fait son œuvre, coupe et réassemble les racines trad à base de composition et d'improvisation. On va écouter tout de suite une suite de Scottish pour illustrer ça. Une suite de Scottish qui sont pour le coup des reprises et non des compositions, où l'on ne sera pas surpris de retrouver une composition de Narragonia, un groupe où vous pourrez faire vous-même les liens si vous le connaissez en écoutant. Et puis le guide botanique, donc toujours ce guide botanique du livret, franchement, achetez le disque au moins pour ça. On peut l'écouter sur internet, mais vraiment ce livret il est chouette. Nous dit, donc ce guide botanique nous dit que ça fait maintenant pas mal d'années que Rhizotome joue cette suite, qui est d'ailleurs une vieille technique de travail à deux pour polir leur jeu, et puis c'est aussi une plante qui vit longtemps et qu'il faut arroser abondamment. Ba 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 On se quitte donc sur Rhizotome, c'est une suite de Scottish. On se dit à dans 2 semaines.
À bientôt. Thank you.